Actu SF, les podcasts.
Bonjour et soyez les bienvenus pour cette rencontre avec peut-être pas le médecin du futur, mais en tout cas avec la médecine du futur qui reposera ou pas sur l'étude des gènes. Alors avec moi, nous avons Jean-François Deleuze. Jean-François Deleuze, vous êtes actuellement directeur du Centre national de recherche en génomique humaine du CEA. Vous êtes directeur du laboratoire d'excellence GenMed, qui est dédié au développement de la médecine personnalisée. Je vais passer quelques titres parce que vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs casquettes. Et vous êtes aussi, vous avez joué un rôle clé dans le développement du plan français de médecine génomique 2025, dont on parlera sûrement. En bref, Jean-François Deleuze est la personne qu'il faut interroger pour savoir un peu quel est le rôle de la génomique dans la recherche française et dans la médecine de demain. Alors, si je demande à la plupart d'entre vous ce qu'est pour vous le progrès, je suis sûre que la majorité me répondra le progrès, c'est la médecine. Le progrès, c'est l'allongement de la durée de vie, c'est la baisse de la mortalité infantile dès le 19e siècle, c'est la découverte de la vaccination, c'est la découverte de la pénicilline, etc. Jean-François Deleuze, quel a été pour vous le progrès majeur en médecine ou en biologie ?
Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est assez. Quand je suis descendu, je me suis rendu compte que c'était assez flou comme son, donc j'espère que je parle clairement. Alors c'est une question qui, c'est une question qui doit avoir un peu de temporalité. C'est un progrès majeur, tout bête, ça a été l'hygiène, ça a été que quand les chirurgiens se sont lavés les mains entre des autopsies et des accouchements et qu'ils ont évité à des femmes de mourir parce qu'elles avaient des infections. Donc ça, c'est probablement un énorme progrès. C'est l'anesthésie qui permet d'opérer des gens sans qu'ils souffrent. Alors après, vous les avez cités. Donc si maintenant, si on se replace dans le contexte d'aujourd'hui, les grands progrès des 10 dernières années, bon, il y en a 2-3 évidemment, qui ne sont pas tous encore rentrés dans le monde de la médecine, mais qui promettent d'impacter la médecine. C'est effectivement... Alors il y a un progrès dans le monde du cancer, qui est indéniable, c'est l'émergence de l'immunothérapie. Donc d'être capable en fait de rendre la tumeur plus sensible à notre propre système immunitaire, en manipulant notre système immunitaire, ce qui permet d'avoir des réponses dans des cancers sur lesquels il n'y en avait pas, comme des mélanomes assez graves ou des cancers du poumon dans lesquels il n'y avait pas de thérapie, pour lesquels on arrive à proposer des solutions chez 25% des patients. Ça, c'est quand même la recherche des 5-10 dernières années. C'est quand même la chose qui avance beaucoup.
C'est ce qui a valu le dernier prix Nobel de médecine physiologie.
C'est ce qui a valu le prix Nobel à M. Honjo de l'Université de Kyoto, absolument. Et puis, effectivement, l'autre grand progrès qui s'annonce, c'est la génomique et c'est l'introduction de notre séquençage d'ADN dans notre prise en charge. Et il faut prendre ça dans notre parcours de vie, dans notre parcours de santé et tout au long de notre vie. Donc, c'est probablement deux des grandes évolutions des 5 à 10 dernières années.
Alors, dans l'imaginaire SF ou autre, quand on imagine la médecine du futur ou la médecine d'une civilisation plus avancée que la nôtre, on imagine des substances complètement miraculeuses qui vont tout soigner, dans lesquelles on plonge le cœur et le corps, et pour lesquelles on n'a plus rien d'autre à faire que d'attendre que ça se répare. Est-ce que la génomique va permettre de tels progrès, de tels miracles ?
Alors, la réponse brutale, c'est non. Mais probablement, c'est la réponse sensée, même à moyen terme. Donc, mais la génomique va permettre plein d'autres choses, va permettre plus de faire de la personnalisation. Et je pense qu'il y a beaucoup à discuter là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et de mauvaises compréhensions de ce que ça veut dire personnaliser la médecine. Mais non, je pense qu'on n'est vraiment pas, même à l'ère des 50 ans qui viennent, on n'aura pas une baignoire avec un gel à l'intérieur dans lequel on se plongera tous les soirs et on rajeunira. Non, non, ça, c'est malheureusement... c'est de la très bonne science-fiction, mais ça reste de la science-fiction.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet de la médecine personnalisée ou préventive ou génomique. D'abord, pour être sûr qu'on sache bien de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Qu'est-ce que c'est que le génome humain et comment on l'étudie en très peu de mots ?
Ah, d'accord. D'abord, alors, en fait, c'est assez simple. Bon, d'abord, on part de l'ADN. L'ADN, avant tout, c'est un nom, c'est un acronyme pour acide désoxyribonucléique. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est une molécule chimique. Et en fait, c'est du schnop. Probablement, vous ne l'avez jamais présenté comme ça, mais en fait, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène et du phosphate. Et en fait, c'est les atomes qu'on a dans la plupart des molécules de la vie. Donc, c'est juste une grosse agrégation d'atomes. Et c'est une très, très grosse molécule. On appelle ça une macromolécule, effectivement, qu'on trouve dans les noyaux de toutes nos cellules. Donc, c'est un acronyme, c'est une molécule comme une autre. Quand on mange du glucose, on mange du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce qu'a l'ADN en plus, c'est de l'azote et du phosphate. Voilà. Donc, c'est juste une molécule. Et c'est dans le monde de la chimie, c'est une molécule chimique. Et c'est aussi un plan. C'est le plan, effectivement, c'est le plan qui nous détermine. C'est donc. Donc c'est une grande molécule qui après a différents niveaux de messages, dont les gènes. Donc on a 3 milliards de nucléotides. Donc imaginez un collier de 3 milliards de perles. Les gens parlent d'alphabet. Et pour chacune des perles, on peut avoir 4 solutions ATGC. Et on a ça 3 milliards de fois et on a ça dans tous les noyaux de toutes nos cellules. Et ces 3 milliards de bases, on peut les déconvoluer en 20 000 gènes. Et 20 000 gènes, c'est 20 000 petits segments d'ADN qui font quelques milliers de chacune de ces paires de bases, qui vont justement donner des protéines qui vont effectivement être responsables de notre mouvement, de notre respiration, de notre métabolisme. Donc c'est ça, les gènes et l'ADN. Et la génomique, c'est l'étude des gènes et de leur régulation. On a donc 20 000 gènes, mais on a des milliards et des milliards de cellules. Et en fait, les gènes s'expriment différemment dans nos différentes cellules. On n'a pas les mêmes gènes qui s'expriment dans une cellule du foie, ce ne sont pas les mêmes que les gènes qui s'expriment dans une cellule du cœur. Voilà, donc la génomique, c'est l'étude de tous ces gènes.
Alors, on a maintenant décrypté le génome humain en entier. Est-ce que pour autant, on comprend mieux comment fonctionne le corps humain ? Qu'est-ce que ça nous a appris ?
Alors, on a décrit. Alors, le séquençage du génome humain complet, ça n'a quand même qu'une vingtaine d'années. Hein. C'est quand même 2001-2002, dans ce qu'on a appelé. Et le nombre de gènes qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Il y a 15 ans, on pensait qu'il y avait 100 000 gènes. Aujourd'hui, on est assez d'accord de dire qu'il y en a entre 22 et 25 000. Vous voyez, il n'y a même pas un chiffre atteint, il n'y a même pas un chiffre définitif. Et donc, on commence seulement à comprendre la fonction de ces gènes. Et il y a des gènes qui restent de fonctions assez méconnues. Et en fait, quand on séquence le génome en entier, on en comprend essentiellement les gènes. Et les gènes ne représentent que 2% environ du total. Donc 2% de 3 milliards de paires de bases, on comprend les gènes à peu près. Donc quand on dit qu'on comprend les gènes, ça veut dire on sait où ils commencent, on sait où ils s'arrêtent et on sait quelles sont les protéines qui sont associées à ces gènes et on sait à peu près dans quelles cellules ils s'expriment et on sait en gros à quoi ils servent d'un point de vue mécanisme. On sait que par exemple un gène, le gène de l'actine, va permettre de la mobilité musculaire par exemple. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais ces gènes en fait interagissent les uns avec les autres. Donc on comprend les gènes, mais on ne comprend pas exactement. On sait qu'ils travaillent en réseau. On sait qu'un gène ne travaille jamais tout seul, il est dans un réseau probablement avec une centaine d'autres gènes, un minimum de partenaires, et c'est ça effectivement qui peut faire des fonctions biologiques complexes. Mais non, on ne comprend pas tout l'humain uniquement à partir des gènes. Parce que l'humain, c'est réduit pas aux gènes, l'humain, c'est le gène, c'est les gènes, et en plus, on devrait même parler des bactéries, hein, je ne sais pas si on va en parler à un moment donné, mais c'est aussi l'environnement dans lequel ces gènes s'expriment. Donc l'environnement modèle effectivement l'expression de ces gènes et influe sur leur régulation.
Pour autant, l'étude de la génomique va servir à développer la médecine. Comment se fait le lien ? Comment on peut prédire l'avenir de la santé d'une personne à partir de son génome ?
Alors en fait, si on se regarde tous les entours, on est tous vachement différents quand même physiquement. Alors qu'en fait, on a assez peu de différences. On a tous un génome de 3 milliards de paires de bases, mais en fait, on a à peu près 1 million de différences 2 à 2. Donc 1 million sur 3 milliards. Et c'est ces différences en fait qui fait qu'on est différent. On a les différences physiques qu'on peut voir. Hein. Déjà, la différence la plus macroscopique, c'est homme-femme. Mais après, il y a des tas de différences. On pourrait invoquer les différences taille, poids, couleur des cheveux, cheveux, pas de cheveux, etc. Et aussi susceptibilité aux maladies. Et ça, c'est lié dans ces différences. Donc, en fait, on est capable, à partir d'une séquence, en fait, de chacun a probablement partage plus de 99% de sa séquence avec son voisin, mais à 1 million de positions du génome, il est différent. Et c'est ça qui fait son unicité. Donc son unicité dans son apparence, mais aussi son unicité dans tout ce qu'il va subir dans la vie, et en particulier la susceptibilité aux maladies. Il faut toujours remettre ça dans le contexte, dans un environnement donné. Il y a des choses qui ne s'exprimeront que si vous êtes exposé à quelque chose. Typiquement, par exemple, la réponse à des agents bactériens, si vous ne voyez pas la bactérie, le gène ne s'allume pas. La toxicité d'un médicament, qui peut être aussi contrôlé par les gènes, si vous ne prenez jamais ce médicament, vous ne verrez jamais quel type de gène vous avez. Donc il faut toujours garder à l'esprit cette interaction entre le gène et l'environnement, dans l'homéostasie, donc le bon équilibre du corps humain.
Alors, on peut du coup lire des prédispositions aux maladies. Ça revient comme je disais, à prédire plus ou moins l'avenir de la santé d'un patient. Qu'est-ce qu'on fait quand on est médecin et qu'on lit dans le génome d'un patient qu'il va être malade dans 10, 20, 30 ans d'une maladie incurable au temps T? Qu'est-ce qu'on en fait et que ferait le malade de cette information?
Alors déjà, ce qu'il faut juste dire, peut-être un petit préambule rapide, c'est que la grande puissance de la génétique, c'est de comparer des groupes d'individus et d'être capable, de façon totalement agnostique, sans aucune hypothèse a priori biologique, d'identifier un endroit du génome qui est responsable d'une maladie. Et c'est justement à travers ces variations. Qu'est-ce qu'on prend si on coupe la salle en deux? Je suis désolé, mais à gauche, on a les contrôles et à droite, on a les malades, ou inversement, mais que tous les gens ont la même maladie et qu'en fait, la définition de la maladie est claire. Donc, on n'a pas d'hétérogénéité dans la définition de la maladie. C'est un ensemble homogène. En fait, on va séquencer tout le monde. Et ces gens-là vont partager quelque chose en plus que ces gens-là ne partageront pas. Et ce qu'ils partageront, donc c'est un variant. Donc, ils vont partager plus de séquences d'ADN. Et quand on va regarder exactement dans le génome cet endroit que ces gens-là partagent et pas ce groupe-là, à côté, il y a très probablement le gène qui est responsable de la maladie. Donc c'est comme ça qu'on détecte où dans le génome est un gène qui peut être responsable d'une maladie. Donc ça procédera toujours de comparaison et d'analyse statistique entre un groupe défini comme un groupe malade ou pas répondant à un médicament ou qui a un phénotype différent et un groupe contrôle qui n'a pas cet aspect-là. Donc en fait, on a fait ça pour des centaines de maladies. On a fait ça pour des maladies neurodégénératives, psychiatriques, cancers, infectieuses. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des gènes qui prédisposent. Alors, je vais commencer par les maladies dans lesquelles c'est plus net, c'est les maladies rares. Donc, c'est ce qu'on appelle les maladies monogéniques. C'est un endroit du génome, une seule base sur 3 milliards qui éventuellement va permettre de conclure assez définitivement à quelqu'un de dire vous risquez, c'est plus que vous risquez, vous avez malheureusement une très forte probabilité d'avoir une mucoviscidose. Et donc ça, c'est une mutation qui s'appelle Delta F507. C'est juste un manque de 3 lettres sur 3 milliards, ce qu'on appelle une délétion. Ces 3 lettres manquent et c'est effectivement la modification qui va justement modifier la protéine qui est derrière, qui s'appelle CFTR, qui va probablement modifier tout simplement le transport d'un ion qui s'appelle le chlore, comme celui qu'on a, le chlore ménager, CL, hein, effectivement dans la membrane au niveau de certaines cellules du poumon, et c'est ça qui est à l'origine de certains du phénotype de la mucoviscidose. Donc, c'est aussi un petit trou, mais on le sait. Donc si on trouve ça à quelqu'un, on est capable de lui dire, c'est malheureusement un diagnostic probable de mucoviscidose, et dans le traitement de la mucoviscidose, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Mais il y a encore pire que la mucoviscidose, il y a la maladie de Huntington, il y a des maladies encore plus dévastatrices. Donc en fait, donc on est capable de le faire pour les maladies rares. Pour les maladies complexes, comme le diabète, la schizophrénie, etc., c'est probablement un mélange de variations qui, ensemble, créent la maladie. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et comme c'est un mélange, chaque élément du mélange apporte une petite contribution. Donc si on fait juste un tout petit peu de statistiques de base, il faut un échantillon beaucoup plus grand de personnes pour trouver chacun des petits éléments que dans une maladie monogénique où un élément crée tout. Donc ce sont des effets faibles, multiplicatifs. Donc c'est pour ça que vous verrez des articles où il y a 100 000 personnes. On va comparer 100 000 personnes asthmatiques versus 100 000 personnes non asthmatiques. En maladie rare, une seule famille peut permettre de trouver le gène qui est responsable de cette maladie. Donc on a des cartes aujourd'hui de gènes qui sont plus ou moins associés aux maladies, les médecins les connaissent. Et en fait, il y en a plein qui manquent. Dans les maladies rares, il y a 8 000 maladies rares, dont probablement 80% sont d'origine génétique, et on connaît les gènes responsables seulement pour la moitié. Donc il faut encore trouver les bases moléculaires de plus de la moitié des maladies rares pour être capable de poser un diagnostic au patient, pour l'inscrire dans un parcours thérapeutique qui sera effectivement dicté par la cause moléculaire pour laquelle il a sa maladie. Donc le médecin est face à ça, donc après c'est la relation médecin-malade. Et c'est vraiment dans la discussion, qu'est-ce que ça représente de séquencer quelqu'un? C'est jamais gratuit de séquencer quelqu'un, c'est pas gratuit pour la personne et c'est pas gratuit aussi pour sa famille. Il ne faut pas oublier qu'on partage son génome avec 50% directement de ses relatifs au premier degré. Donc vous avez 50% de ce que votre père vous a amené, vous avez 50% de ce que votre mère vous a amené, et vous avez 50% de ce que vous donnez à vos enfants. Donc quand vous vous faites séquencer et que vous trouvez quelque chose, il ne faut pas oublier que c'est une information qui est pertinente pour le haut assez rapidement et pour le bas, et même à travers d'autres générations. Donc c'est quelque chose qui doit être raisonné, hein, c'est important. Et donc après, c'est dans la discussion avec le malade, c'est de dire, vous avez telle maladie. Si je vous séquence, je vais peut-être trouver le gène, mais je vais peut-être aussi trouver un cortège d'autres anomalies génétiques qui ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles vous consultez. Mais effectivement, est-ce que vous voulez que je revienne vers vous avec cette information? Est-ce que vous voulez que je revienne uniquement avec l'information qu'on appelle actionnable, sur laquelle je peux faire quelque chose? L'autre, je ne vous en parle pas. Parce qu'effectivement, à quoi ça sert de dire à quelqu'un qu'il a effectivement une maladie incurable? Des gens vont vouloir tout savoir. Des gens vont vouloir rien savoir et des gens vont se trouver entre les deux. Donc pour moi, c'est une question extrêmement difficile et c'est de toute façon laisser à l'appréciation du patient, ce qu'on appelle vraiment éclairer le patient sur ce qu'on fait, les risques qu'il y a, l'information qu'il pourrait avoir si on lui donnait ou pas. Donc c'est au patient de décider, et c'est tout le risque après de faire son séquençage soi-même sans avoir un conseiller génétique et de ne pas être capable d'analyser l'information. Donc la réponse, c'est oui, de temps en temps, on trouve des choses effectivement qui sont, pour lesquelles on n'a pas de thérapie et pour lesquelles la probabilité que le patient ait quelque chose à un moment donné est grave. Mais ça dépend à quel âge on le fait. Découvrir qu'on a un gène de maladie rare pédiatrique quand on a 60 ans, on s'en fiche, on a eu du bol, on est passé à travers. Et en fait, une même mutation, malheureusement, peut effectivement avoir une expression très très sévère et chez un enfant être très très délétère, et d'autres gens normaux, et c'est probable que dans cette salle, il y ait des gens qui aient des mutations qui en fait soient délétères, mais qui ailleurs dans leur génome ont d'autres mutations qui ont protégé cette première mutation. Donc ça dépend vraiment de quel moment on fait le test. Donc il ne faut jamais se faire séquencer juste par plaisir, juste par jeu, juste par hasard, parce qu'il y a toujours une information qui est compliquée à comprendre. Et encore une fois, pensez bien à l'impact que ça a pour votre descendance et votre ascendance. On ne se séquence pas tout seul. On séquence, entre guillemets, une partie de sa famille.
Alors, vous avez souligné le rôle de l'environnement dans l'expression de notre génome. Est-ce que lorsqu'on découvre une prédisposition à une maladie, on peut faire de la prévention pour ne pas tomber malade?
Oui, et ça, c'est... Oui, absolument, alors, deux solutions à ça. Soit on a des molécules qui existent, des médicaments qu'on peut donner de façon préventive en amont, et je reviendrai là-dessus. Soit en fait, c'est le style de vie. Soit on dit à quelqu'un, voilà, vous êtes à risque de faire un infarctus du myocarde jeune, et on va dire des choses stupides, mais mangez moins gras, mangez des légumes et faites du sport. Mais ces trois éléments qui, s'ils sont faits, effectivement, réduisent de plus de 50% la mortalité, effectivement, par infarctus du myocarde jeune. Et donc, il y a toute une tendance qui est en train d'arriver, mais c'est extrêmement récent. Je reviens d'un congrès assez important de génétique un peu mondial aux États-Unis, et on est capable aujourd'hui, alors pas dans toutes les maladies, et je ne veux certainement pas lever aucun espoir, mais justement dans ce cas très précis de l'infarctus du myocarde de l'adulte jeune, d'identifier un ensemble de marqueurs sur le gène qui permettent de dire, monsieur, madame, vous avez X% de risque de faire un infarctus du myocarde dans votre quatrième ou cinquième décade. Et donc, deux solutions dans le futur, la chance c'est qu'il y en a deux. Vous changez de vie tout de suite. Et ça, on pourrait le dire même très en amont dans la vie d'un individu. On n'est pas obligé d'attendre 30 ans pour le faire. Ben, vous avez vraiment intérêt à faire du vélo, à pédaler, à manger des légumes et puis à éviter la mayonnaise, le gras, le tabac et le whisky. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais en tout cas, vous êtes au courant. Ou alors, vous prenez des statines. Donc, la statine, certainement, il y a plein de gens, vu le nombre qu'on est autour de la table, il y a certainement des gens ici qui prennent des statines. Donc, ça sert à baisser le niveau de cholestérol. Tout le monde sait que le cholestérol, c'est pas bon. Et tout le monde sait que le cholestérol, ça peut faire des plaques dans les artères. Et si une plaque se bouche, c'est un infarctus, etc. Donc voilà. Et donc la statine permet effectivement de réguler le cholestérol. Et donc les gens qui seraient à risque de faire des infarctus tôt pourraient bénéficier de façon préventive d'une statine et donc d'éviter vraiment effectivement de faire un événement d'infarctus du myocarde. C'est juste un exemple parmi d'autres. Et ça, on est capable de déterminer génétiquement aujourd'hui les gens qui sont plus à risque que d'autres, qui vers la quarantaine ont un risque plus fort de faire un infarctus du myocarde.
Alors, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de France Génomique, qui rassemble les principales plateformes françaises de génomique et de bioinformatique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistent ces plateformes de génomique et de bioinformatique?
Alors ça, c'est une initiative française qui a été lancée maintenant. C'est pas moi qui la pilote. Le France Génomique, c'est piloté par un collègue qui s'appelle Pierre Lebert. C'est une très belle initiative qui était un peu en réponse à ce que font les Américains et à dire soit on mutualise les ressources, soit on met des séquenceurs à droite à gauche et on n'aura jamais les moyens d'avoir la quantité et la force suffisante pour faire les projets génomiques dont on a besoin et d'être compétitif à l'échelle internationale. Donc les plateformes, en fait, c'est des regroupements d'équipes et de séquenceurs. Il faut imaginer qu'un séquençage aujourd'hui d'un individu, c'est en gros 1000 euros deux jours à partir d'un peu de salive ou de sang. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment énormément démocratisé. Donc encore une fois, 1000 euros, deux jours, mais par des experts. Ça paraît simple comme je le dis, mais c'est vraiment avec un réseau d'expertise. Et ça va probablement descendre aux alentours de 500 euros. Donc on commence à être à un niveau de prix qui est celui d'un examen médical classique. Mais bien sûr, en gardant en tête tout ce que je vous ai dit avant, l'intérêt que ça peut avoir, mais tout les effets secondaires aussi qu'il y a dans le séquençage humain. Le génome, c'est un peu une boîte de Pandore. On trouve, de temps en temps, on trouve ce qu'on cherche, de temps en temps, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais on trouve autre chose. Et ce qu'on trouve, est pas forcément, on n'a pas forcément envie de l'entendre. Donc ça doit être toujours raisonné et toujours encadré. Donc les plateformes de génomique, ce sont des gens qui sont capables effectivement de séquencer en France, et on a essentiellement deux grands centres avec une grosse puissance de feu qui sont à Évry, dans la génopole d'Évry. Donc ils sont deux centres qui sont pilotés par le CEA. Donc il n'est pas qu'un centre qui fait d'énergie atomique et d'énergie alternative, hein, qui fait vraiment, qui est extrêmement pointu en technologie et en sciences du vivant. Et donc d'un côté, il y a l'humain, donc c'est le centre que je pilote, donc c'est la plus grande puissance de séquençage en France, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est biodiversité. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'expédition Tara Océan, où les gens vont récupérer des bouts de plancton partout dans le monde, et ils regardent justement la diversité planctonienne, l'impact sur le CO2, l'impact sur le climat, etc. Et la bioinformatique, c'est en gros la partie informatique. La génomique, c'est le tube et la pipette, et la bioinformatique, c'est l'ordinateur. C'est des gens qui sont capables de récupérer toute l'information, justement, donc, de ces 3 milliards de nucléotides, et de faire ce qu'on appelle de l'annotation, et de la convertir en information biologique. Combien il y a de gènes? Quelles sont les variations? Est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'ils sont tous là, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en pleine émergence, qui manque dans le monde entier. Tous les pays souffrent de pas assez de bioinformaticiens, mais ça, on a tous l'habitude en France. Moi, maintenant, j'ai un peu plus de 50 ans, donc quand mes parents me disaient « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Je vais faire de la recherche, j'ai dit « t'es fou, tu devrais faire ça, etc. » Il y a eu toute une vague, on a tous fait de la biologie moléculaire, aujourd'hui plus personne n'en fait, on a abandonné la biochimie, aujourd'hui il faut en refaire, tout le monde s'est laissé dans la bioinformatique, et on est sans arrêt comme ça dans ce pendulum où on est excessif. Mais aujourd'hui, la bioinformatique, c'est une science dans laquelle, alors s'il y a des jeunes dans la salle, si là où il faut aller quelque part en biologie aujourd'hui, il faut vraiment se former en informatique appliquée et en maths appliquée à la biologie, il y a un besoin énorme. Et le plan de l'étude génomique dont vous parliez tout à l'heure va générer tellement d'informations qu'il y a absolument besoin d'experts pour analyser ces données.
En quoi ça consiste le plan de médecine génomique 2025 ?
Alors le plan de médecine génomique, c'est le constat que la science a démontré qu'il y avait une pertinence à utiliser le génome à l'hôpital. Et donc c'est pas un plan de recherche. Hein, pour vous donner, je sais pas, 2-3 exemples rapides. Aujourd'hui, on est capable de prescrire à un patient un médicament uniquement basé sur son génome. On pourrait presque s'affranchir de la raison pour laquelle il est venu cliniquement. Si un patient vient avec un cancer, alors une patiente qui a un cancer du sein, métastasé d'un certain type, on va la séquencer et on va chercher une altération très précise sur un chromosome. C'est un gène qui s'appelle HER2. Tous les gènes ont des noms avec des lettres, hein, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas très grave. Hein. R, c'est récepteur, etc. Et en fait, les femmes qui ont le cancer du sein à cause de cette mutation, je pense que c'est entre 20 et 30% du cancer du sein métastatique, vont bénéficier d'un traitement, mais qui va être très efficace chez elles. Donc on a absolument intérêt à les repérer, uniquement sur la base de cette altération. On pourrait même d'ailleurs, indépendamment du type du cancer, traiter les tumeurs HER2 positives avec ce traitement, parce que c'est ce signe moléculaire, c'est effectivement ce qui répond directement au médicament. Et donc ça, c'est une démonstration que ce qu'on appelle les thérapies ciblées, on est capable de reconnaître dans le génome d'une tumeur des signaux qui indiquent la thérapie que la personne devrait mettre. C'est pas vrai pour tous les cancers, c'est pas vrai pour tous les patients. Et c'est vrai pour d'autres pathologies aussi. Dans les maladies rares, le but, c'est d'établir le diagnostic de la maladie. Établir le diagnostic d'une maladie rare, c'est dire votre enfant, parce que c'est souvent des formes pédiatriques des syndromes, votre enfant a une maladie parce que ce gène-là a une mutation. Mais ça change totalement la vie de quelqu'un. Et ce qu'on veut faire, c'est arrêter ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Il y a des enfants qui vont avoir des syndromes polymalformatifs, retards mentaux, qui vont passer par an une dizaine d'hospitalisations dans une dizaine de services sans avoir mis un nom sur leur maladie. Est-ce que c'est neuro? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est psychiatrique, etc., etc. De mettre un gène sur la maladie, effectivement, ça permet de préciser énormément la pathologie que l'enfant peut avoir. Ça permet de faire un groupe de patients qui ont la même maladie avec la même mutation. Éventuellement, ça permet de créer un groupe qui pourrait générer un essai clinique, etc. Donc là, et on a démontré là, dans les 4-5 dernières années que des centaines de gènes de maladies rares ont été identifiés grâce à la génomique. Et dans les maladies communes aussi, ça avance. Donc on s'est dit, OK, la science est là, la base est là, mais maintenant, il faut le convertir au niveau de la clinique. Donc le plan, c'est on sort du laboratoire, on rentre dans l'hôpital, on met des séquenceurs dans l'hôpital, tout est fait dans des laboratoires d'analyse biomédicale, on n'est plus dans le monde de la recherche, on est dans le monde du diagnostic, et on va commencer par le cancer et les maladies rares. Et donc il y a deux premières plateformes qui ont été lancées, une à Lyon, qui s'appelle Oragen, une à Paris qui s'appelle Sequoia, et qui vont vraiment séquencer, mais vraiment comme un examen clinique, avec tout le contexte et l'environnement réglementaire qu'il y a autour des patients, justement pour faire la démonstration que dans le monde clinique, ça marche aussi, pour que en fait, le séquençage dans les prochaines années devienne remboursé. Et en France, on veut équité de traitement, accessibilité pour tout le monde et remboursement par nos systèmes de sécurité sociale. Mais il faut qu'on démontre à la Haute Autorité de Santé justement le bénéfice pour le patient et justement le rationnel économique de faire ça. Donc ce plan sert à mettre le séquençage à l'hôpital, c'est pas de la recherche et du diagnostic et de la clinique, et c'est pour démontrer et c'est pour le déployer à toutes les maladies dans les 5 à 10 ans qui viennent.
Alors, on a vu que la médecine de demain, elle pourra être prédictive, elle pourra être préventive. On vient de voir qu'elle pourra être personnalisée. À quel point sera-t-elle personnalisée? Est-ce que ça va considérer des groupes de population? Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'individu? Est-ce qu'on sait aujourd'hui déjà jusqu'à quel point on pourra personnaliser des traitements?
Alors, personnaliser, ça va aller à l'individu. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit que les industries pharmaceutiques allaient faire des médicaments par individu. C'est-à-dire, effectivement, c'est de préciser par personne quel est le traitement qui lui va le mieux à lui. Et effectivement, et déjà, la première personnalisation, c'est de dire, j'ai deux groupes, là, pour le coup, c'est un groupe de patients, et en face, j'ai une pharmacopée, j'ai des molécules chimiques, des anticorps, des substances naturelles. Et le premier niveau de personnalisation, c'est une meilleure utilisation de la pharmacopée existante par rapport justement aux caractéristiques génétiques et moléculaires d'un individu. Donc c'est ça dont on parle. Ce n'est pas le mythe de dire chacun, demain, aura le traitement de novo créé par quelqu'un, une industrielle, qui va lui développer. Ça, c'est économiquement tout simplement pas viable. Sur des molécules chimiques, j'ai un parcours un peu atypique où j'ai commencé par 15 ans de pharma avant de revenir dans le monde académique. Pour sortir une molécule dans une pathologie complexe de type polyarthrite rhumatoïde, etc., c'est en moyenne aujourd'hui entre 10 et 15 ans de travail et ça coûte $1 milliard pour une population moyenne. Donc vous imaginez ça multiplié effectivement par le nombre de patients pour lesquels il faudrait le faire. Donc ça, il ne faut pas laisser courir l'idée que justement des sociétés auront demain les moyens de générer des molécules pour tout un chacun. Par contre, effectivement, le premier niveau, c'est utiliser la meilleure molécule pour un patient en fonction de son profil, à partir de ce qui est existant. Et puis, il y a des thérapies, justement, un peu plus dans ce qui va arriver. Il y a deux, trois grands types de traitements aujourd'hui. Il y a les molécules chimiques, ce qu'on prend tous, paracétamol, pour ceux qui ont mal à la tête. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la petite molécule chimique qu'on prend par la bouche, qui passe par le foie et qu'on élimine avec un certain temps. Après, il y a les anticorps, c'est arrivé il y a une quinzaine d'années. C'est beaucoup plus cher, c'est un peu plus invasif. Il y a ce qu'on appelle les devices, les appareils, comme par exemple les stents. Quelqu'un qui a une artère bouchée, on ne lui donne pas une molécule, on met un ressort à l'intérieur pour écarter le diamètre et pour que le sang passe. Donc ça, c'est les trois grands axes, donc molécules, anticorps, devices, de la pharmacopée d'aujourd'hui. Arrive maintenant la thérapie cellulaire, donc on va être capable de remplacer des organes, on va être capable de remplacer des cellules. Et dans le remplacement des cellules, il y a deux modes. Il y a le mode autologue, on vous remet vos propres cellules. Quand vous avez ceux qui prévoient des opérations qui saignent beaucoup, genre prothèse de hanche, on va vous faire venir pas mal de fois en avant, on va vous prendre du sang pour vous faire une allogreffe ou une autogreffe. On va vous remettre, si vous saignez beaucoup, le sang qu'on vous aura banqué avant, pour éviter tout problème, parce que tant qu'à faire, c'est pas très embêtant de vous prendre les 6 mois avant, plusieurs centaines de ml. Et il y a l'allogreffe. L'allogreffe, c'est on vous donne quelque chose qui est compatible, pas totalement. C'est comme quand vous avez besoin d'un rein, soit c'est votre frère qui vous le donne et en plus il ne sera pas forcément 100% compatible, soit c'est quelqu'un d'autre de la population, mais on vérifie qu'à minima, la compatibilité au niveau du système immunitaire est bonne et permettra d'éviter le rejet. Donc là, la personnalisation, elle existe depuis. La médecine, elle est de toute façon par définition personnalisée. On ne traite pas le patient 1 comme le patient 2, sauf quand il y a une épidémie de grippe, tout le monde prend le même antibiotique. Mais en fait, on regarde éminemment. Je veux dire, la transfusion sanguine, c'est éminemment personnalisé. Avant de vous transfuser du sang, on va savoir comment vous êtes. On ne va pas vous mettre du B si vous êtes A. On ne va pas vous mettre du A si vous êtes O. Ça serait criminel aujourd'hui, tout le monde irait en prison. Donc la personnalisation, c'est un peu ça quand même. C'est vous donner le traitement qui va bien. Sauf que dans le cas du groupe sanguin, c'est assez simple. C'est ABO, on n'a pas 50 000 solutions et on peut s'échanger facilement entre nous. Pour les autres types de traitements qu'on aura, malheureusement, la diversité est plus grande et il y aura moins cette facilité d'échange.
Alors, cette médecine de plus en plus technologique et de plus en plus personnalisée, quel en sera le coût? Et est-ce que nous aurons une égalité d'accès aux soins à l'avenir? Ou au contraire, est-ce que les inégalités sociales qu'on observe déjà dans l'accès aux soins aujourd'hui, est-ce que ces inégalités vont se renforcer à l'avenir?
Alors, au niveau national, la volonté du plan, c'est égal accès à tout le monde, au même prix, au niveau national. Donc, je parle pas de l'égalité. Je ne sais pas si l'égalité, vous la pensez internationale au niveau national, mais là, clairement, c'est vraiment une des pierres angulaires du plan. C'est accès à tout le monde dans les mêmes conditions. Le prix du génome aujourd'hui, si on voit la médecine personnalisée sur le premier axe que je vous ai défini, c'est-à-dire la meilleure prescription des médicaments existants, ça coûtera le prix du séquençage. Le prix du séquençage va arriver aux alentours de quelques centaines d'euros. Ça ne sera pas plus cher que beaucoup d'examens, et même moins cher que beaucoup d'examens biologiques et cliniques existent aujourd'hui. Donc tout le monde pourra bénéficier d'un examen qui sera remboursé. Si la bioinformatique est suffisamment bien développée, tout le monde aura la possibilité d'avoir identifié quelque chose dans son génome qui permettra d'être mieux traité. Donc là, tout le monde pareil. Il n'y a aucune raison effectivement, qu'il y ait une différence. Par contre, c'est dans le deuxième modèle. Si jamais demain, on imaginait qu'on puisse développer, si on prend l'exemple de la thérapie cellulaire, ou des médicaments très chers, pour le coup, peuvent être développés de façon très, très spécifique, là, effectivement, c'est pas possible d'imaginer que ça va être fait de façon individuelle. Et ça, oui, il y a un risque dans ces médicaments très chers, qui est une médecine à deux vitesses, mais qui existe déjà. Et là, je parle au niveau national. Alors, si on parle au niveau mondial, c'est pas, je veux dire, sans faire de tiers-mondisme, bah, toutes les populations n'ont pas accès à la plupart des bénéfices qu'on a thérapeutiques qu'on a dans le monde. C'est pas bien, mais si vous êtes en Inde et que vous avez un cancer du sein, vous n'avez pas accès aux innovations thérapeutiques qu'il y a en France. C'est pas vrai. Ou elles arrivent des années après, à un prix. Il y a $1 pour soigner quelqu'un en Inde par jour. Donnez pas un anticorps qui te coûte $70,000 par an. Donc l'inégalité, elle est déjà là. La médecine personnalisée ne va pas forcément l'accentuer. Mais au contraire, je dirais, elle pourra permettre, sur le prix du séquençage, peut-être sur les médicaments qui sont là, de mieux préciser un peu pour tout le monde.
Alors, on voit apparaître sur le marché des tas de gadgets ou d'outils qu'on appelle e-santé, la santé électronique, comme des trackers d'activité, des cardiofréquencemètres, des balances connectées et même des cabines de consultation à distance. Comment est-ce que le numérique va s'associer avec la médecine génomique ?
Alors, ce que vous décrivez là, c'est le bon côté, parce qu'effectivement, ça paraît assez intéressant. Il y a un problème dans la médecine personnalisée de demain, c'est qu'il va falloir créer des nouveaux métiers. Parce que si demain on vous séquence, quand vous irez à l'hôpital, il faudra que quelqu'un passe 20 minutes avec vous pour vous expliquer ce qui va se passer et vous faire signer un consentement éclairé. Donc ils font des conseillers en génétique. On a probablement 1 pour 1000 des conseillers dont on a besoin en France pour être capable d'informer la population vraiment. Après, il faut des médecins qui soient capables de prescrire correctement ce qui va se passer en génomique. On le sait, on est en train de travailler dessus. Hein. Après, il faut des bioinformaticiens, etc. Donc il y a énormément de métiers qui manquent, qu'il faut créer. J'ai un peu oublié votre question.
Comment ça se marie, la santé électronique
Et donc, en fait, on pense que, justement, on ne peut pas non plus créer des filières éducatives. On ne va pas faire des médecins demain. Il faut 15 ans pour faire un médecin spécialiste. Donc, en fait, justement, l'informatique, le numérique va être le bras d'automatisation qui va permettre, effectivement, de combler ce déficit en termes de postes pendant les 15 ans qui viennent. Et moi, récemment, j'ai vu un reportage à la télé qui était fascinant. Si les gens sont bien triés au début, bah, quand vous avez une angine ou un truc, c'était une dame qui était dans un désert médical français qui consultait par Skype avec un généraliste, et c'était probablement amplement suffisant, et c'était une super idée. Parce que quand même, elle était capable de décrire ses symptômes. Alors, le généraliste, il pouvait même éventuellement, avec certains devices, regarder dans sa gorge avec un truc qu'elle avait. Donc, on peut vraiment imaginer des choses. Donc, ça va évidemment complémenter tous les déficits qu'on a en formation à plein de niveaux. On peut imaginer, justement... Alors, faut pas casser je ne parle pas de casser la relation malade, hein, la relation patient-malade. Mais encore une fois, si on prend l'exemple des déserts médicaux, bon, si on veut être capable de récupérer le maximum d'informations d'un patient pour savoir, effectivement, une fois qu'il a été traité, si ça a marché ou pas, qui est la personne la plus à même de passer du temps à expliquer ce qu'il a eu? Ben, c'est le patient lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le PRO, le Patient Reported Outcome. Et donc, probablement aussi, il faut qu'on équipe et qu'on discute avec les gens pour qu'effectivement, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, tout le monde a un ordinateur. Je crois que probablement 100% dans la salle. J'ai rencontré quelqu'un qu'on n'avait pas tout à l'heure dans un vendeur de BD qui était réfractaire au téléphone, mais pourquoi pas. Mais tout le monde a ça. Et je pense qu'effectivement, ces outils-là permettront aux gens de dire ce qu'ils ont et d'enrichir énormément les bases de données, parce que quel médecin va passer une heure aujourd'hui, quelle structure de santé a le temps de passer une heure avec un patient pour capturer dans un ordinateur tout ce que le patient va avoir déclaré? Personne, on ne peut pas. Il passe entre 5 et 15 minutes pour un patient. Donc le numérique va, je pense, énormément aider, un, à pallier les manques d'effectifs, deux, à justement permettre d'enrichir les bases de données. Le patient va avoir un rôle énorme à jouer, de toute façon, avec ces outils. Et je pense que je vois ça d'un point de vue très positif. Et alors, si on reste un peu dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, je ne suis pas un expert, ça fait un peu buzzword, mais clairement, il y a des problèmes de biologie aujourd'hui qui sont des énigmes, des impasses, et on pense que seuls les nouveaux outils de mathématiques un peu plus intelligentes et de statistiques supervisées, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, en anglais le deep learning, hein, les réseaux de neurones, hein, en gros c'est ce qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Mais si on est à partir de... On a montré 250 000 visages à un réseau de neurones, et un jour on lui montre n'importe quoi, il reconnaît que c'est un visage. Donc c'est un système qui reconnaît ce qu'on appelle un pattern, un profil. Si on est capable de faire ça pour un visage humain, si on est capable de faire ça pour un chat, par exemple, parce que ça a été fait. On est aussi capable de faire ça pour une protéine, par exemple, et dire à quoi ça ressemble. Et toutes ces technologies nouvelles vont permettre probablement aussi de répondre à des questions biologiques qui sont, auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui et de faire des avancées. Donc je vois deux choses. Je vois le côté très pratique des outils et le côté justement très fondamental de la meilleure compréhension des questions biologiques qui sont encore des impasses aujourd'hui.
Alors justement, tout ça représente une quantité de données phénoménales, que ce soit, vous l'avez dit, des données fournies par les patients eux-mêmes, mais aussi des données maintenant de personnes en bonne santé, via justement tous ces objets connectés de e-santé, qui mesurent la fréquence de votre rythme cardiaque quand vous courez, etc. Que deviennent ces données-là ? Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu énorme ? On parlait ce midi un petit peu de Google et de toute la sphère autour. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu économique énorme de détenir ces données ? Et comment est-ce qu'on garantit la confidentialité de ces données qui pourraient intéresser nos banquiers, nos assureurs, etc. Comment on gère ça ?
Alors déjà en France, c'est interdit d'être séquencé en dehors d'un cadre clinique. Et c'est même interdit pour vous d'aller vous faire séquencer ou génotyper chez 23andMe. Si vous faites attraper, c'est 3 200 €. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Parce que c'est considéré comme un peu un exercice un peu illégal de la médecine, etc. Donc on a, en France, c'est, et donc ce qu'on appelle la relation directe entre le fournisseur et le client. Le client, c'est le patient. Donc ça, en France, c'est interdit et probablement interdit pour les années qui viennent. Mais les gens, effectivement, ils passent les frontières. Ils vont se faire, il suffit de cracher dans un tube et d'envoyer ça à chez 23andMe ou d'autres sociétés que vous connaissez probablement aussi bien que moi, pour avoir effectivement une mesure qui n'est pas un vrai séquençage, c'est une analyse de génotypage de plusieurs millions de marqueurs de votre génome. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, vous signez un consentement éclairé qui dit « je suis d'accord pour faire de la recherche ou je ne suis pas d'accord ». Ça, je pense qu'ils respectent. Je pense que si vous signez « je veux juste que les données me reviennent à moi et je ne veux pas que ça soit partagé », ils ne le font pas. Mais la plupart des gens lisent que la première ligne et disent « ok ». C'est pas bien grave d'ailleurs parce qu'il y a un côté vertueux dans tout ça. Ce qu'ils savent pas, c'est que les données, elles sont revendues. Et il n'y a rien qui revient dans votre poche. Elles sont revendues par 23andMe à des sociétés comme Roche, voire Google, pour faire des grands programmes scientifiques. Alors si c'était des programmes académiques très vertueux qui permettent de découvrir des nouveaux gènes de maladies, chacun saurait qu'il a participé effectivement pour le bien de l'humanité à découvrir des gènes. Mais 23andMe gagne du fric au passage parce qu'eux, ils vendent les données, ils ne les donnent pas. Et 23andMe, c'est Google, c'est YouTube qui est pas loin. Donc c'est toutes ces sociétés californiennes qui ont compris que la puissance, elle n'est pas dans le séquençage. Le séquençage, ça va être une commodité. Le séquenceur aujourd'hui, c'est une machine. Si vous avez un technicien qui est bon, tout le monde peut séquencer. La valeur, elle est vraiment dans les données personnelles de chacun et dans les bases de données intelligentes qui vont permettre de les comparer. Ça, c'est là qu'est l'or. Peut-être qu'on dira, il y avait l'or blanc, l'or noir. Faudrait peut-être inventer un mot, l'or ADN. Mais l'ADN, c'est de l'or. Pour un industriel pharmaceutique, pour trouver des nouveaux gènes très spécifiques d'une maladie sur lesquels il développera une molécule, il va faire un blockbuster, il va gagner des milliards de dollars par an parce qu'il va breveter une molécule. C'est de l'or pour potentiellement demain des compagnies d'assurance. C'est de l'or pour des gens qui veulent associer génétique au comportement. Donc effectivement, il faut faire très attention. Et il y a toujours une nébuleuse. Alors, comme c'est un pléonasme, mais une nébuleuse, c'est toujours un peu nébuleux. Et on ne sait pas exactement, quand on va dans ces sociétés, ce qu'on a signé. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est lisez bien les consentements éclairés. Si déjà il fait 10 pages et qu'il est en caractère 8, c'est que ça cache quelque chose. Un consentement éclairé, ça doit être simple. Et normalement, déontologiquement, ça doit être explicite. Souvent, c'est des choses en fait, qui sont faites pour protéger au niveau juridique la personne qui veut essayer un peu de vous arnaquer. Donc il a mis toutes les clauses et au bout de 3 lignes, vous ne comprenez rien. C'est comme quand vous mettez WhatsApp sur votre téléphone. Combien d'entre vous ont relu les 20 pages effectivement, qu'il faudrait lire et on a tous dit « ouais, WhatsApp, j'accepte » parce qu'on a tous envie de discuter avec nos copains. Sauf qu'il n'y a pas pire que WhatsApp. Quand vous dites « oui » à WhatsApp à la fin, vous ouvrez votre téléphone entièrement et personne ne le sait quasiment. Et ils peuvent tout regarder. Les consentements éclairés dans certaines de sociétés, c'est un peu ça. C'est vous donner un accès à des gens qui vont valoriser vos données, valoriser voulant dire les vendre à quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, encore une fois, et vos données dans ces bases-là, auxquelles normalement vous n'avez pas le droit d'aller, sont attachées généralement avec votre nom, votre adresse et certaines caractéristiques. Et de plus en plus, ils reviennent vers les gens en deuxième intention en posant quelques questions. Est-ce que vous accepteriez de dire, par exemple, quelle est votre couleur de cheveux ou est-ce qu'il y a des prédispositions d'Alzheimer dans votre famille, etc. Mais il y a quand même un côté vertueux parce que 23andMe a dans sa base de données plus de 5 millions d'individus. C'est probablement la plus grande collection au monde aujourd'hui de morceaux de séquences. Encore une fois, ce n'est pas des séquences complètes. Et récemment, d'ailleurs, dans le congrès où j'étais, dans une grande séance plénière américaine, ils sont venus présenter, ce qui était impensable il y a quelques années. Donc les Américains, en France, on n'aime pas trop 23andMe. Aux États-Unis, c'est un succès commercial l'argent est pas tabou, hein, donc ils n'ont pas peur d'exposer. Et ils ont présenté un joli travail, très scientifique, hein, à partir des 5 millions de données sur justement la prédiction de l'infertilité, qui est un vrai souci chez des gens qui veulent avoir des enfants. Et donc en regardant effectivement dans leur sperme ou dans leurs oocytes, les altérations génétiques qui pourraient permettre de prédire ou pas justement des questions d'infertilité. Donc il n'y a pas tout à jeter. Il faut absolument contrôler, il faut lire les consentements éclairés. S'ils font 20 pages, dites non ou lisez tout, ou faites-vous expliquer. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc c'est plus simple. Mais ce que je dis là est aussi vrai pour le plan. Hein. Je veux dire, il faut aussi s'attribuer les mêmes responsabilités. Il y a un groupe de travail avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Offre de Soins, qui travaille depuis 2 ans sur un consentement éclairé et une lettre d'information qui accompagnera tous les gens qui seront inclus dans le plan français de nutrition génomique. Et justement, qui est un groupe de travail extrêmement vertueux. Et le truc, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Ce n'est pas juste, justement, d'être une protection juridique. Et ce n'est pas une vision, je ne veux pas me faire attaquer.
Alors, nous avons souvenir dans notre histoire récente de tentations eugénistes qui consistent à sélectionner des êtres qu'on estime parfaits. On a aussi un exemple de film, Bienvenue à Gattaca, dont c'est l'argument. Le héros, on lui prédit une prédisposition à une maladie et donc il n'a pas accès au métier des êtres considérés comme parfaits. Avec toutes ces données que l'on aura sur les gens, sur tout un chacun, comment est-ce qu'on peut stopper les tentations eugénistes des sociétés ?
Alors, au niveau des... Alors, c'est un vaste sujet, hein, je ne suis pas un expert, c'est un point de vue très philosophique et sociétal. Alors, d'un point de vue assurance, je pense qu'on est toujours sur la loi Kouchner, je crois, de 2002, où il y a un moratoire où les assureurs n'ont absolument pas le droit d'utiliser une information génétique pour quelque chose. Ça veut dire s'ils n'ont pas accès, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de faire une distinction au niveau d'une police d'assurance par rapport à une question génétique. Donc ça reste interdit en France. Donc ça sur le côté assurance, aux États-Unis c'est pas le cas, hein. donc oui, techniquement effectivement, hein, c'est possible de dire ce monsieur a une maladie rare dont on sait que son taux de mortalité à 30 ans est de 95%, on va pas le laisser acheter une maison et effectivement avec un remboursement sur 30 ans. Mais bon, ça aujourd'hui donc c'est interdit, mais c'est un risque, c'est un vrai risque, donc il faut effectivement avoir une structure éthique et réglementaire qui permette de contrôler ça. Donc en France, je pense qu'en France on a moi qui suis vraiment dans le monde de la recherche, c'est de temps en temps je trouve que l'éthique est contraignante, parce que vraiment, je peux vous assurer que pour n'importe quel travail qu'on fait, les documents qu'il faut qu'on remplisse pour faire une cohorte d'individus, c'est un parcours du combattant, parce que justement on est extrêmement protectionniste sur à la fois la privacité, la protection des données personnelles, le consentement éclairé, l'approbation par des comités d'éthique et scientifiques sur la recherche qu'on veut faire. Et en France, on fait vraiment, vraiment pas n'importe quoi. Et on est peut-être de temps en temps même un peu trop, je dirais, pas protecteur, parce qu'on l'est jamais trop, mais trop contraint, ce qui permet de pas toujours être très compétitif. Parce que la science, c'est quand même aussi de la compétitivité. Hein. Si les Américains, s'il y a de l'économie derrière la science, si les Américains trouvent systématiquement, en amont de tout le monde, les gènes qui sont responsables des maladies, qui va développer les médicaments de demain ? Eh bien, ça sera les sociétés américaines. Qui va gagner de l'argent ? Eh bien, ça sera les sociétés américaines. Donc, il y a quand même de la compétitivité. Il faut qu'on soit bon en France en science, et aussi, il faut qu'on soit compétitif. C'est vrai que compétitivité et science, peut-être, ça fait peur aux gens, mais c'est éminemment un secteur compétitif, parce qu'il y a éminemment un secteur économique qui en découle derrière. Donc, aujourd'hui, des moratoires, un encadrement qui est quand même précis, et on est très, très bien placé en France, qui prend ça très, très sérieusement. Quoi. Donc, et un échantillon étranger qui rentre en France est considéré comme français. Hein. On lui applique exactement les mêmes guidelines et la même rigueur que si c'était quelqu'un d'origine française et de nationalité française. Pardon, pas origine, nationalité.
Alors, je vous pose une dernière question, et après, on prendra les questions de la salle qui ne manqueront pas de tomber. Une question un peu plus technique. On a vu que la génomique servait à faire de la prévention, éventuellement de la prédiction, bien sûr, faire des bases de données, comprendre ce qui se passe, faire du traitement personnalisé. Est-ce qu'on peut aussi soigner avec des gènes ? Où en est la thérapie génique, dont on a beaucoup parlé à un moment et dont j'ai l'impression qu'on parle un peu moins ?
Alors, je pense qu'on en parle un peu moins parce qu'on en a tellement trop parlé et en donnant des faux espoirs en termes de temps. Aujourd'hui, on a peur d'en parler et peut-être que c'est toujours pareil, c'est le pendule. Hein. Non, il y a beaucoup de très beaux essais qui sont essentiellement menés par le Généthon, donc à Évry. Hein, donc le Généthon, d'où est issu le Téléthon, d'ailleurs, qui doit être la première semaine de décembre. Donc il y a plusieurs essais dans des maladies musculaires, cardiaques, oculaires qui sont en cours. Ils sont vraiment passés au stade de la clinique. Je pense qu'ils le font avec en essayant d'être un petit peu moins dans la zone de radar parce que ça a été énormément exposé. Moi, je me rappelle, ça fait 20 ans que je suis à Évry. On a entendu parler de l'ADN médicament dans l'année 2 du Généthon, du Téléthon. C'était beaucoup trop tôt. Donc il y a des essais de phase 1, il y a des essais de phase 2. L'essentiel de l'argent du Téléthon ne va plus à la recherche, va aux essais cliniques. Donc il y a un vrai virage qui a été pris pour essayer dans quelques pathologies d'en dériver des traitements. Il y a des espoirs sur quelques pathologies. Ça reste un vrai, vrai, vrai secteur de développement et là, pour le coup, une vraie spécialité française et peut-être un secteur dans lequel on est compétitif encore parce qu'on était très compétitif en génomique dans les années 90. Hein. C'est quand même la France qui a vraiment participé aux premières séquences du génome humain et ce qu'on appelle la carte physique et la carte génétique. La France était leader mondial en 92-93. On s'est fait rattraper après par les Américains. Je pense qu'en thérapie génique, on est vraiment par des acteurs mondiaux. Donc ça continue, mais probablement sous le radar, parce que c'est un peu le retour de bâton d'avoir un peu trop vendu la maison sur plan et de ne pas avoir monté la maison. Quoi. Et la thérapie cellulaire et tout. Et donc il y a une société qui a été créée qui s'appelle Hipposkesi, qui est une société qui émane d'ailleurs du Généthon pour justement se mettre un peu dans le niveau d'industrialisation qu'il est nécessaire de faire pour vraiment mener des essais cliniques avec des vecteurs de qualité clinique. Hein, quand on fait un vecteur viral qui va effectivement emmener un gène chez un individu, il faut qu'on s'assure qu'il soit thérapeutique et pas nocif. Donc à un moment donné, ça c'est du boulot d'industriel. Hein. C'est des chaînes de production avec des critères de contrôle qualité et d'assurance qualité qui sont la spécialité du monde industriel. Donc ça avance et de façon assez peut-être un peu plus discrètement qu'avant.
Est-ce qu'il y a des questions parmi vous pour Jean-François Deleuze, le pape de la génomique en France ? Ah, là, au premier rang. Allez-y.
Est-ce qu'un jour, il y aura un vaccin qui pourrait guérir les maladies incurables aujourd'hui ?
Un vaccin seul qui... Non, la réponse... Enfin, un vaccin qui guérira tous les maladies incurables, non. Par contre, d'imaginer qu'on pourra guérir des maladies qui semblent incurables aujourd'hui, probablement oui. Pas forcément que par des vaccins, hein, par d'autres types de pathologies. Hein. Donc c'est une question qui est trop vaste. Il faudrait plutôt la préciser par rapport à une maladie donnée, parce que chaque maladie va être approchée d'un point de vue pharmaceutique et traitement différemment. Ça dépend de l'organe qui est ciblé. Si on doit aller chercher un organe qui est très profond, par exemple, je pense au pancréas, c'est pas la même chose que si quelque part il suffit d'aller dans la peau. Donc il y a des tas de spécialisations et donc c'est une question qui doit être déclinée pour chaque maladie incurable qu'on pourrait avoir en tête. Donc oui, évidemment, la génomique, on n'a pas parlé de grandes évolutions techniques en particulier. Vous avez dû en parler, la presse en parle, CRISPR-Cas9, c'est un nom un peu... C'est ce qu'on appelle de l'édition du génome, c'est de corriger des fautes. C'est comme si vous imaginez une dictée où il y a des fautes, et ben vous faites passer le typex magique et il n'y a plus de fautes dans la dictée. Ben les mutations, c'est des fautes dans le texte, en gros. Sauf que ce n'est pas des fautes, c'est juste une différence. Donc on a aujourd'hui des systèmes qui permettent de corriger, vraiment de façon beaucoup plus propre qu'avant, une mutation, mais pas des milliers, ben pour l'instant, une mutation dans un génome. Donc on pourrait être capable sur cette base-là, alors il y a des tas de problèmes éthiques, hein. Il faut parler de la génétique somatique versus la génétique constitutionnelle, on ne veut pas changer le patrimoine de l'individu, mais on pourrait être capable demain d'aller changer dans un organe donné, dans une cellule donnée, ça sera mieux que la thérapie génique, parce ça ne sera pas par correction d'un gène, on viendra juste changer une base, et on pourra redonner à une protéine, à un gène qui était déficient, la fonction d'une protéine. Si la maladie est incurable, ça pourrait éventuellement la guérir.
À vouloir faire quelque chose de parfait, est-ce qu'on ne risque pas de ne pas voir des mutations qui pourraient être intéressantes pour l'homme ? Est-ce qu'on ne risque pas de stagner, en fait ?
Alors,
la question de l'évolution.
De stagner. On a des programmes, justement, effectivement, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais on a un programme en ce moment qui cherche à trouver les mutations bénéfiques. En tout cas, alors dans ce cas-là, c'est vrai que mutation comme mot dans la tête des gens, c'est mutation égale mauvais. Parce que mutation, c'est ce qui vient avec la radioactivité, on est muté, c'est pas bon. En fait, mutation, c'est changement. Mais on a des programmes de recherche aujourd'hui pour analyser. Donc, si c'est le sens de votre question, justement, qu'est-ce qui fait que il y a des programmes aujourd'hui de séquençage de la population normale. Donc des gens qui vont bien et qui ont 60 ans, entre 50 et 60 ans. Qu'est-ce qu'on découvre quand on séquence ces gens-là ? c'est que certains sont porteurs de mutations. Et si cette personne-là avait été justement séquencée dans le cadre d'un projet parental 60 ans avant, probablement on aurait conseillé à ses parents un avortement thérapeutique. Et ça aurait été une erreur, parce que le gars, il est là, il va bien. Ou la femme, elle est là, elle va bien. Et cet individu, ce qu'il a, c'est qu'il a une mutation, effectivement, d'une maladie rare qui est mauvaise, mais quelque part ailleurs dans ce génome, il a quelque chose qui l'a protégé contre cette mutation. Et donc, on a des programmes scientifiques aujourd'hui qui essayent de trouver ce qu'on appelle des gènes protecteurs. Et donc, effectivement, ce qui est bon, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas tous exactement... On n'est pas du tout égaux face aux mutations, mais si on vous séquençait tous autour de la pièce ici, on a tous plusieurs mutations pas très bonnes dans nos gènes, tous. Tous les génomes sont comme ça, donc il faut enlever des dés. Il n'y a pas une séquence parfaite, il n'y a pas de séquence de référence, on est tous mutants. D'accord ? On a tous des mutations différentes et on a tous des mutations de prédisposition à quelque chose. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui par rapport à la question de Bénédicte tout à l'heure, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder une mutation dans son contexte global. Il ne faut pas regarder une mutation toute seule. Malheureusement, ça complique. Mais justement, l'ensemble de notre génome peut influencer justement l'expression ou pas d'une mutation. Donc oui, on essaye de regarder aussi ce qui pourrait être bénéfice et protecteur. Et parce que, évidemment, si on arrive à trouver lui, il a une mutation qui est mauvaise, mais il a été protégé grâce à ça, c'est évidemment des pistes thérapeutiques super intéressantes. Plutôt d'essayer de corriger quelque chose qui est déficitaire, on va essayer plutôt de travailler sur ce qui était protectif. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport à la stagnation.
En partie, mais effectivement, on se retrouve comme les gens il y a 60 ans qui auraient demandé... On n'entend pas, pardon. On se retrouve comme les gens d'il y a 60 ans qui auraient demandé aux parents, votre enfant a une mutation qui risque de l'entraîner vers la mort et il faut faire quelque chose. Mmh. Et c'est ce côté visionnaire qu'on aura du mal à avoir puisqu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer dans le futur. Et donc on rentre un peu dans l'eugénisme.
C'est la problématique du risque, c'est la problématique de l'éclairement des patients. Je veux dire, face à une mutation, le médecin et le conseiller génétique, ils conseillent. Ils décident pas. Dans l'état de l'art et de ce qu'il sait, il dit au patient ou à la patiente ou à la maman dans une maladie, cette mutation, elle est connue, blablabla, 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 et voilà les risques. Et c'est pas de la lâcheté, hein, parce que la décision, effectivement, elle doit être prise par la personne qui est vraiment au cœur du système. Donc ça sera jamais le médecin qui, justement, de façon eugénique, va éradiquer en disant ça reste. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une relation. Mais il y a aussi des problèmes juridiques, malheureusement. Hein, mais il y a de plus en plus une relation médecin-malade. Et il faut reconnaître que, moi, c'est un peu ce qui m'inquiète un peu, parce qu'on en est loin, c'est que même les maladies qu'on pensait éminemment monogéniques, autour. Il y a des choses, même si c'est rare, il se peut effectivement qu'une mutation ailleurs corrige ce qu'on pensait justement être délétère. Alors il y a des gens qui poussent le bouchon très loin aux États-Unis, hein, mais c'est très compliqué, hein, à Duke University, mais c'est pour des choses qui se voient, il faut voir des choses qui se voient vraiment à l'œil. Donc en fait, pour tout ce qui va être malformation, très très grosse, qu'on pourrait effectivement voir dans une échographie ou chez un animal, donc il y a environ 600 gènes dont on sait chez l'enfant que s'ils sont mutés, ils vont donner une malformation visible. Une grosse tête, un seul œil, c'est horrible, mais il y a plein de mutations comme ça, un genre cyclope, etc. Et cette personne-là pousse le bouchon à vérifier dans des poissons zèbres. Donc c'est un tout petit poisson qui est transparent, donc on peut voir dans un aquarium à travers s'il y a des déficits dans les organes. Donc c'est vraiment un contrôle physique de ce qui peut se passer. Donc il est capable, justement, quand une famille vient pour un projet parental qui a déjà eu un cas dans la famille ou qui a un doute parce qu'ils ont été exposés à un agent, il a introduit la mutation qui a été séquencée chez le même, effectivement, dans l'embryon, par exemple, à des stades précoces, avant de proposer quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est une grosse industrie. Hein. Il a déjà, en gros, il faut imaginer qu'il a dans des congélateurs les 600 poissons avec chacune de ces mutations. C'est pas exactement comme ça, mais c'est un peu comme ça. Quand il le sort, il le fait naître, ce poisson, et il l'étudie, et il regarde. Si le poisson, effectivement, exprime quelque chose d'anormal, il a notamment détecté la mutation qu'il a mis chez le poisson, chez l'enfant, il voit effectivement qu'il y a l'expression du phénotype chez le poisson, et là, il dit au patient, il y a ça, et chez le poisson, ça donne ça. C'est pas toujours non plus 100% exact, mais... Donc, et là, on prend la décision de... Veut-on prendre le risque, quelque part, le 1% de chance que ça soit pas ça, on le vive, ou effectivement, décide-t-on d'abandonner le projet parental. Et ça, c'est une décision... C'est un éclairement avec des conseillers génétiques, mais effectivement, c'est jamais absolu, c'est jamais 100%. Mais il n'y a rien qui est 100% dans la vie, donc... C'est un choix. Il faut que ça soit le choix le plus éclairé possible. Mais après, avoir laissé vivre un enfant... moi, j'ai beaucoup navigué dans les centres de pédiatrie avec des enfants atteints très, très, très lourdement. Je n'ai pas de position religieuse particulière sur le sujet, hein, mais j'ai bossé sur des maladies du foie de l'enfant où il fallait les transplanter, où c'était une vie de douleur, de traitement, de trucs, etc. Enfin, voilà. et vraiment au jour d'aujourd'hui, quasiment zéro vraiment perspective d'amélioration, une grande complexité à avoir des greffes, et ça c'est multiplié par 100. Donc est-ce que c'est souhaitable aussi, parce qu'on veut prendre le risque de se dire, on ne sait jamais, de prendre le risque, l'autre risque de laisser vivre un parcours de vie comme ça à des enfants. Là, ça devient philosophique, religieux, etc. Et ça me dépasse. Mais voilà. Et donc, c'est forcément personnel.
Bien, on vous écouterait comme ça pendant des heures. Vous restez pour la table ronde suivante qui sera sur le transhumanisme et qui sera du coup dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Je voudrais vous signaler une séance de cinéma parce que vous savez qu'il y a un super festival et qu'il faut, il faut en profiter. Dans les rétrospectives, vous avez Au-delà du réel à 16h15 en salle d'une, un film de Ken Russell de 1980 où il sera question de l'intégration dans notre ADN des origines de l'univers. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un bon film. À très bientôt.